Voilà, on a entendu déjà beaucoup de choses ce matin. On va essayer de continuer sur cette lancée. Je crois que vraiment Dieu est à l'œuvre. On est dans un temps, on l'a prononcé plusieurs fois, où je crois qu'on rentre dans une nouvelle saison. Et en passant, juste en revenant, peut-être un petit retour sur le dimanche passé, où Gilbert nous a parlé, entre autres, de la louange. Hein. Je crois qu'il n'a pas pu s'empêcher. Mais il nous a cité deux choses importantes que j'ai notées. Il a dit, la louange est un moyen de libérer la gloire et la puissance de Dieu. Et puis il a aussi dit, la louange est un son qui parle du royaume de Dieu. J'ai bien aimé cette phrase, un son qui parle du royaume. Alors, je crois vraiment qu'il y a de multiples façons de communiquer ce qui vient du royaume de Dieu, de communiquer le message du royaume. Jésus, dès le début de son ministère, a prêché le royaume. Alors il a commencé par dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais Jésus, il a aussi dû utiliser pas mal de moyens de communication différents. Il a utilisé des paraboles pour qu'on puisse comprendre et saisir certaines réalités de ce royaume. Il a utilisé également, il a parlé avec autorité pour nous démontrer la proximité de ce royaume. Il a guéri les malades. Il a libéré les captifs parce qu'on a une compréhension souvent qui est un peu arrêtée et c'est des choses qui nous dépassent. En plus de ça, il a même dévoilé certains mystères de ce royaume en privé à ses disciples. Il a dit dans Matthieu 13, il leur dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Intéressant. Et il a fait même plus que ça. Et c'est ce que je vais voir avec vous ce matin. Il leur a donné les clés du royaume. Les clés du royaume. C'est ce que je vais essayer de vous partager un tout petit peu. Alors, pour en savoir plus, je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu 16, les versets 13 à 19. Matthieu 16, 13 à 19. On va déjà regarder du verset 13 à 17. Parce qu'avant de recevoir ces clés, il est indispensable de connaître le roi de ce royaume. Alors Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je aux yeux des hommes? Qui suis-je au dire des hommes? Pardon, moi le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Waouh! La première révélation d'un homme qui proclame ça sur cette terre, qui reconnaît en Jésus ce Fils de Dieu. Quelle déclaration incroyable que Pierre est en train de faire ici. Il faut juste imaginer un tout petit peu le contexte. Les Juifs attendaient avec impatience un Messie, c'est clair, mais ils attendaient comme véritablement un libérateur. Ils espéraient voir un roi puissant qui s'imposerait surtout sur la scène politique, et qui les délivrerait premièrement des Romains. Ils avaient des attentes assez claires de ce que devait faire le Messie en arrivant, et je pense qu'ils attendaient plutôt un roi né dans un palais, plutôt que le fils du charpentier né dans une étable. Et au point de vue peut-être pleinement humain, Jésus n'avait pas le bon profil à ce moment-là. Et Pierre n'a pas parlé par la raison humaine, mais par une conviction intérieure venue du Père. Reconnaître et déclarer que Jésus est le Christ, le Dieu vivant, c'est jamais une pensée qui vient de la chair, mais c'est une révélation du Saint-Esprit. Et je crois que c'est cette première révélation qui nous amène à comprendre de plus en plus qui il est. Parce que si je déclare qu'il est le Christ, alors je déclare aussi tout ce que la Bible dit de lui. Et il est beaucoup de choses. On a entendu ça ces dimanches passés, mais qu'est-ce qu'il est encore? Est-ce que vous pouvez m'aider? Si Jésus est le Christ, il est aussi le Créateur. Il est le Seigneur, le Sauveur, le Roi, la Lumière. Yes! Le chemin, la vérité et la vie. Le bon berger. Quoi encore? Le médiateur. La sagesse. Une source. La lumière du monde. Notre avocat. Notre meilleur ami. Et on pourrait continuer la liste. Et déclarer Christ, ça veut dire croire qu'il est tout cela pour moi. Est-ce que je peux dire qu'il est tout ceci dans tous les domaines de ma vie? On a vu tout à l'heure, parfois, il y a des combats, il y a des difficultés. Hein. Et je crois que des fois, c'est un combat de garder cette révélation intacte de nos vies. Parce que l'ennemi, le diable, s'oppose tout le temps à ce que cette révélation soit présente. Il préfère nous garder dans l'ignorance pour mieux nous dominer. Et je crois que par la foi, nous pouvons et nous devons s'approprier cette vision de qui est Christ et de ce qu'il a fait à la croix pour nous dans toutes les situations de notre vie. Paul le dit bien, nous avons à renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et vous, leur dit Jésus, que dites-vous que je suis? Et toi ce matin, qui dis-tu que je suis dans tous les domaines de ta vie? Et parfois, on a juste à s'interpeller parce qu'il y a peut-être des domaines où il n'est pas vraiment le Seigneur, où il n'est peut-être pas vraiment à la bonne place. Après cette déclaration de Pierre, Jésus va continuer de parler, toujours dans le même passage, au verset 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Yes! Wow! C'est quand même un texte particulier. Premièrement, j'aimerais juste dire que c'est la première mention de l'Église dans toute la parole de Dieu. C'est la première fois que l'Église est mentionnée à ce moment-là. Pourquoi? Parce que je crois que tous ceux qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur font justement partie de son Église. Cette Église glorieuse qui traverse les siècles, qui traverse les générations, les frontières, jusqu'à nous ici, à Oran-la-Ville. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Ésaïe, en prophétisant, disait, « On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. » Nous sommes cette Église que Christ s'est acquise par son propre sang. Il a aussi parlé qu'on est cette colonne de la vérité dans ce monde. Nous sommes le lieu où la lumière de la vérité est là. Et c'est à nous de la révéler aux nations. Nous avons une mission d'ambassadeur. D'ambassadeur sur cette terre et peut-être même plus, parce qu'il est dit, c'est par l'Église que même les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui la sagesse infiniment variée de Dieu. Et je crois que Dieu prend un soin particulier de son Église, parce que justement, on a un rôle, une mission à jouer. Si on est là, ce n'est pas par hasard, mais c'est parce que on fait partie de cette famille de Dieu et que nous avons aussi à le servir. Nous sommes filles et fils de ce roi. Nous sommes héritiers de la gloire de Dieu. Nous pouvons bénéficier des ressources du ciel et nous sommes appelés à vivre et à les partager autour de nous. Je crois que Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour cela. Nous pouvons témoigner dès aujourd'hui de ce qu'on connaît déjà de lui et ce qu'il a fait pour nous. Devenons acteurs et partenaires avec Jésus-Christ, parce que les clés du royaume sont à notre disposition. Alors ces clés, c'est quoi? Est-ce que ça... C'est vrai que dans la Bible, dans les versets qui suivent, la Bible ne nous décrit pas réellement ce que sont ces clés. Alors j'ai regardé un peu par moi-même, je vais vous donner quelques éléments de réponse. Et je crois qu'une des premières clés qui a été donnée, c'est clairement l'Évangile. L'Évangile, la bonne nouvelle. Et c'est intéressant de voir que c'est Pierre qui, en premier, a prêché l'Évangile. C'est lui qui, en premier, a donné accès au royaume par ce moyen. À Jérusalem, le jour de la Pentecôte, plus de 3000 personnes ont cru en Jésus et sont rentrées dans le royaume de Dieu. On peut relire juste ces versets dans Acte 2, au verset 38, 37 et 38, où il est dit, après avoir entendu Pierre, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Que ferons-nous ? » Et Pierre va leur dire, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Maintenant que le royaume de Dieu est accessible à cause de la mort et de la résurrection de Jésus, Pierre mentionne simplement les trois étapes nécessaires pour que chacun de nous en puisse avoir cette vie éternelle, qu'on puisse changer de royaume, passer de la mort à la vie. Et c'est aussi Pierre qui a quelque part officialisé l'accès au royaume, si on peut dire comme ça, pour nous les païens. Vous vous rappelez de cette histoire de Corneille où le Saint-Esprit est venu d'abord toucher cette famille et visiter Corneille et tous ceux qui étaient dans la maison alors qu'ils étaient juste en train d'entendre l'Évangile. Et Pierre a compris à ce moment-là que l'amour de Dieu s'étendait à plus que le peuple d'Israël, mais au monde entier. Car il est dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alors aujourd'hui, je crois que c'est à nous d'utiliser cette clé qui ouvre la porte du royaume de Dieu, en annonçant l'Évangile à notre génération, comme on vient de l'entendre, mais aussi à nos amis, à nos collègues de travail, à nos voisins et à tous ceux que nous rencontrons. Une deuxième clé qui est certainement importante, je crois que c'est simplement la venue du Saint-Esprit sur la terre. Le Saint-Esprit est venu avec une mission et avec ses dons en notre faveur. Et Jésus va dire dans Jean 14, « Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » C'était juste pas possible avant, de l'Ancien Testament. Et même à l'heure où Jésus parle à ses disciples, dans ces fameux versets, c'était pas encore possible. Mais après la mort de Jésus, le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit est avec nous. Et c'est un conseiller qui nous accompagne et nous encourage de la mission qui est la nôtre. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous enseigne. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les mystères et les stratégies du ciel. Et c'est le Saint-Esprit qui nous équipe de ses dons. C'est certainement une clé importante et merveilleuse. Je vais juste vous lire un verset dans 1 Corinthiens 2:9. Ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Je crois que vraiment par cette présence du Saint-Esprit, aujourd'hui, on rentre directement dans la dimension du surnaturel. Si on veut rentrer dans cette dimension du surnaturel de Dieu, amener ce royaume avec puissance, je vous encourage vraiment à accueillir ce Saint-Esprit. C'est une clé que Dieu nous a donnée pour démontrer les réalités du royaume avec puissance. Et c'est sa présence qui va faire la différence en nous. Alors, je ne peux pas développer plus ce sujet, mais il y aura certainement beaucoup, beaucoup à dire. Mais il y a aussi des bons livres qui ont été écrits là-dessus. Et je vous encourage, par exemple, à lire les livres de Bénin. Il a écrit « Bienvenue, Saint-Esprit » ou « Bonjour, Saint-Esprit », des livres intéressants qui nous montrent comment le Saint-Esprit fonctionne, comment cette troisième personne de la Trinité devient notre ami intime. Puis je nommerai encore une clé qui me paraît importante. C'est certainement l'autorité spirituelle que Dieu nous donne. Dans ce dernier verset que j'ai lu de Matthieu 16, verset 19, Jésus dit « Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Je ne sais pas si on mesure toute la portée de ces paroles d'un premier coup, mais je crois que par ces paroles, Jésus confie un pouvoir spécial et une autorité particulière à Pierre et à ses disciples. Alors on me dirait, pourquoi ? Pourquoi finalement ? Eh bien, je pense que très clairement, parce qu'ils sont dans une situation ou dans une zone de combat. Un peu comme nous, simplement sur cette terre. Jean va dire, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et dans 1 Jean 3, 8, il est écrit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Je crois que cette autorité de Dieu, que Dieu nous transmet, est indispensable pour qu'on puisse accomplir notre mission et marcher dans la victoire. Écoutez ce que Jésus dit à propos de cela. Il y a plusieurs endroits dans la Bible où il est parlé de cette autorité, mais dans Luc 10 au verset 19, il dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir ou l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Dans Matthieu 10, 1, Jésus appelle les 12 disciples et leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et je crois que c'est vraiment une clé que Dieu nous laisse. Le pouvoir, en grec, ça se prononce « exousia », et ça veut dire un pouvoir délégué. Ça veut dire que celui qui a toute autorité va envoyer des autres que lui pour exercer son autorité. C'est une autorité déléguée avec l'objectif d'amener le royaume de Dieu sur la terre. Et je crois qu'on peut facilement comprendre ce qu'est cette autorité déléguée avec l'image d'un policier. Le policier, pour accomplir sa mission, est investi de l'autorité de l'État. D'accord ? Et d'un geste de la main, il peut arrêter un camion. Il n'aurait pas la force lui-même de le faire. Mais parce qu'il a un uniforme et parce que le chauffeur va voir cet uniforme et va reconnaître l'autorité qu'il représente, il va appuyer sur le frein et il va arrêter son 40 tonnes. De la même manière, pour accomplir notre mission qui nous est confiée, nous sommes investis de l'autorité de Christ. Nous pouvons amener les valeurs du royaume sur cette terre, chasser les démons, guérir les malades, si nous avons le bon uniforme. Alors c'est quoi le bon uniforme ? Eh bien, je crois que c'est simplement revêtir Christ, comme il est dit dans Galates 3, 27. Vous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. Nous sommes revêtus d'un vêtement de justice, mais aussi d'un vêtement d'autorité. Et faites-moi confiance, le monde spirituel reconnaît très bien les uniformes qu'on porte. Et il reconnaît surtout celui de Jésus-Christ. parce qu'il est en-dessus de toute autorité et de tout pouvoir. Dieu a déployé sa force en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite de Dieu dans les lieux célestes. L'autorité de Jésus, bien sûr, n'est pas à remettre en cause. Mais s'il est en-dessus de toute autorité, il est aussi le chef de l'Église et il est notre chef. Et il nous confie une mission. Il nous confie réellement une mission. Et maintenant, je dirais, c'est simplement à nous de nous mettre en mouvement. Alors, comment faire avec cette clé magnifique? Eh bien, je dirais simplement, l'autorité de Dieu est activée par nos paroles. Un son qui parle du royaume, c'est aussi ça. L'autorité de Dieu est activée par nos paroles et nous devons ouvrir notre bouche. Les choses ne vont pas changer, même si on y pense très fort. Pour activer l'autorité de Dieu, nous devons parler. Alors, je sais que c'est des fois plus difficile à faire pour les hommes que pour les femmes, parce qu'on parle peut-être un peu moins. Pardon. C'était pour voir si vous écoutiez encore. Mais c'est vrai que nous aussi, en tant qu'hommes, on a peut-être à prendre la parole plus souvent, en tout cas dans ce domaine. Écoutez ce que dit le centenier romain à Jésus. Seigneur, vous vous rappelez de cette histoire du centenier romain qui avait son serviteur malade. Il lui dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Un seul mot, un ordre pour libérer et activer la puissance de Dieu. Alors que va dire Jésus? Il va dire, va. Alors, c'est pas très long, je crois qu'on peut pas faire plus court. On peut pas faire plus court, mais il a parlé. Et il lui dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, son serviteur a été guéri. Et je crois qu'il y a comme un détonateur de ce qu'on prononce. La Bible nous montre qu'à chaque fois, Jésus a parlé pour exercer l'autorité de Dieu, pour qu'elle soit activée. Il a parlé aux malades, il a parlé aux aveugles, il a parlé aux morts, il a parlé aux démons, il a parlé à la tempête, il a parlé au vent, à la mer, et peut-être encore d'autres choses, même une fois à un arbre, qui est devenu sec d'ailleurs. Et certainement encore d'autres choses, la liste n'est pas exhaustive. Et je crois qu'il attend juste qu'on fasse la même chose que lui. Que nous utilisions les clés qu'il a mises à notre disposition. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et je crois qu'il ne faut vraiment pas oublier que cette autorité de Dieu est activée au moment où nous commandons au problème de disparaître. Il nous encourage aussi à garder la foi en lui et à croire que les paroles qui ont été prononcées vont s'accomplir. Nos paroles ont de l'importance. Quelqu'un a dit, ce que nous avons dit hier fait notre vie d'aujourd'hui. Nos paroles peuvent faire réussir ou échouer nos propres projets, mais parfois aussi ceux de Dieu. Il arrive que la défaite soit due à une double confession. Je ne pense pas qu'il s'agit des paroles qu'on prononce à l'église ou dans nos prières, mais c'est parfois les paroles qu'on prononce à la maison, qu'on prononce avec nos amis, où tout d'un coup on ne dit plus la même chose que ce qu'on avait dit devant le Seigneur. Et je crois que ce sont ces paroles-là qui reflètent souvent le fond de notre cœur et qui influent sur notre esprit et définissent notre position de foi. apprenons à ne pas changer nos paroles, à ne pas annuler nos déclarations antérieures par des propos négatifs. Et je crois que là, c'est vraiment aussi quelque chose que nous devons mettre en pratique. Hébreux 4, verset 14, nous dit « Demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Et littéralement, en grec, ça veut dire « Continuons fermement à dire la même chose. » Continuons à dire la même chose. Alors voilà quelques clés, il y en a certainement d'autres. C'est celles que j'ai reçues, en tout cas, pour vous les communiquer ce matin. Pour terminer, j'aimerais dire, la parole de Dieu nous appelle à mener le bon combat. La parole de Dieu nous appelle à mener le bon combat de la foi, à nous positionner dans la victoire de Christ en toutes circonstances. Nous sommes appelés à utiliser les clés que Dieu nous a données, à grandir dans la connaissance et la pratique des dons du Saint-Esprit, à libérer la puissance de Dieu par nos paroles, pour ramener les valeurs de ce royaume, pour démontrer la proximité de ce royaume, pour guérir les malades, pour libérer les captifs. Je crois que je vais m'arrêter là et je pense qu'on peut simplement encore, peut-être si l'équipe de louange veut revenir, on va terminer avec un chant ou un moment musical. Mais je vous invite vraiment à rentrer dans une nouvelle saison, dans la saison de Dieu. On ressent, et plusieurs ressentent qu'il y a une saison où les choses vont s'accélérer ou comme devenir plus fortes. Et je crois qu'il y a une saison favorable, une saison où Dieu va se manifester avec gloire et puissance. Une saison où l'action du Saint-Esprit va transformer les vies avec puissance et nos propres raisonnements aussi. Une saison où la présence de Dieu va être confirmée par des miracles et par des prodiges parce qu'il est juste aussi la résurrection et la vie. On ne l'a pas nommé tout à l'heure, mais il est la résurrection et la vie. Et simplement qu'on puisse peut-être se lever tous ensemble, et j'ai aussi donné l'opportunité à ceux qui ont une attente particulière, à ceux qui ont besoin, quel qu'il soit, que ce soit une guérison, que ce soit d'être renouvelé dans leur esprit, dans leur ministère, à tous ceux qui ce matin ont besoin d'un attouchement particulier. Je sais qu'il y en a qui ont demandé aussi l'onction d'huile. Vous pouvez vous avancer aussi pendant ce chant et on va prier à la fin pour chacun de vous. Par nos paroles, on veut juste se libérer cette autorité, cette puissance du royaume sur vos vies, et qu'on puisse prendre maintenant un temps pour le faire. Dans le nom de Jésus. Alors, louons le Seigneur, et je vous invite, pour ceux qui en ont besoin, à vous avancer. Je vais encore juste prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces clés que tu donnes à ton peuple aujourd'hui même. Merci parce que tu nous donnes une mission et tu nous demandes d'aller ce matin. Et on veut recevoir de toi, Jésus-Christ. On veut recevoir de toi, Saint-Esprit, ce que tu mets simplement à notre disposition ce matin. Viens, Saint-Esprit, viens remplir nos vies. Viens mettre un feu, Seigneur Jésus, dans nos vies, afin qu'on puisse réaliser et aller avec force dans ce ministère que tu nous confies, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Chacun, ceux qui en ont besoin, puissent...